Variation.
Variation.
Poésie, coup de bouche, politique, coup de la bouche de la poésie, coup de bouche du politique.
Mise en voix.
Mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche, du politique qu'on éclate.
Du politique qu'on éclate la bouche. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.
Et toi, t'es de quelle origine ?
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 Moi, je suis... Voilà, j'ai pas envie de répondre à cette question. Voilà.
On pense à son salaire.
Mon origine, je sais pas trop.
On pense à sa carrière. On pense à son ulcère. Mais on pense pas au protozoaire.
Suédoise.
Française.
Gitane.
Italienne.
Embryonnaire.
Serbe.
Parce qu'elles sont tout petites.
Bulgare.
Origine.
Origine d'appellation contrôlée.
Quelle origine ? Quelle origine ? Quelle origine ? Quelle origine ?
Alors comme ça, toi aussi tu faisais du stop, sans le savoir, pouce levé. Un jour, le bus de la vie s'est arrêté. Psst, tu montes ? Et t'es monté. Là-dedans, on t'a appris 2-3 comptines. Une souris verte, meunier Tudor, il y avait des éléphants et des orangs-outans. Et quand t'as su marcher, ben on t'a dit de continuer, à pied, c'est tout droit. Il y a bien des chemins de traverse, mais au fond, c'est tout droit. Tu ne pourras jamais revenir en arrière. La seule chose que tu pourras faire, c'est soigner la qualité de ta marche, et choisir l'endroit où tu poses ton regard, en marchant. C'est tout ce que tu pourras faire. Tu ne sauras jamais ni où, ni quand, ni comment ça finit. Tu sauras juste que ça finit. Et c'est ainsi que tant que tu es en vie, tu peux être divin. Car entre l'endroit où tu te trouves et l'endroit où ça finit, entre ces deux endroits, t'es immortel. Alors cueille chaque seconde de cette fichue divine immortalité. Pour toi et pour les suivants.
Je m'appelle Sarat, Sarat, ce qui signifie en arabe espoir, espoir, et en anglais triste, triste. Au fil des semaines, parfois d'une heure à la suivante, voire dans l'explosion d'une seconde, ma vérité glisse de l'arabe à l'anglais, selon que je me sens optimiste ou misérable, je deviens Sarah de l'espoir ou Sad le triste. À la loterie de la naissance, on tire de bons, de mauvais numéros. Quand on atterrit en Amérique, en Europe, au Japon, on se pose et c'est fini. On est une fois pour toutes, nul besoin de recommencer. Tandis que lorsque l'on voit le jour en Afrique ou au Moyen-Orient, souvent, j'ai rêvé d'avoir été avant d'être. Je rêve que j'assiste aux minutes précédant ma conception. Alors je corrige, je guide la roue qui brassait les cellules, les molécules, les gènes. Je la dévie afin d'en modifier le résultat. Pas pour me rendre différent, non. Juste éclore ailleurs. Autre ville, pays distinct. Même ventre, certes, les entrailles de cette mère que j'adore, mais ventre qui me dépose sur un sol où je peux croître et pas au fond d'un trou dont je dois 20 ans plus tard m'extirper. Je m'appelle Sarat, Sarat, ce qui signifie en arabe espoir, espoir, et en anglais triste, triste. J'aurais voulu m'en tenir à ma version arabe, aux promesses fleuries que ce nom dessinait au ciel. J'aurais souhaité, l'orgueil comme unique sève, pousser, m'élever, expirer à la place où j'étais apparu tel un arbre épanoui au milieu des siens, puis prodiguant des rejets à son tour, ayant accompli son voyage immobile dans le temps. J'aurais été ravi de partager l'illusion des gens heureux, croire qu'ils occupent le plus beau site du monde sans qu'aucune excursion ne les ait autorisés à entamer une comparaison. Or, cette béatitude m'a été arrachée par la guerre, la dictature, le chaos, des milliers de souffrances, trop de morts. Chaque fois que je contemple George Bush, le président des États-Unis, à la télévision, je repère cette absence de doute qui me manque. Bush est fier d'être américain, comme s'il y était pour quelque chose. Il n'est pas né en Amérique, mais il l'a inventé, l'Amérique, oui. Il l'a fabriqué dès son premier caca à la maternité. Il l'a perfectionné en couche-culotte pendant qu'il gazouillait à la crèche. Enfin, il l'a achevé avec des crayons de couleur sur les bancs de l'école primaire. Normal qu'il la dirige, adulte. Faut pas lui parler de Christophe Colomb, ça l'énerve. Faut pas lui dire non plus que l'Amérique continuera après sa mort, ça le blesse. Il est si enchanté de sa naissance qu'on dirait qu'il se la doit. Fils de lui-même, pas fils de ses parents, il s'attribue le mérite de ce qui lui a été donné. C'est beau l'arrogance. Magnifique l'autosatisfaction obtuse, splendide cette vanité qui revendique la responsabilité de ce qu'on a reçu. Je le jalouse, comme j'envie tout homme qui jouit de la chance d'habiter un endroit habitable. Je m'appelle Sahad, Sahad, ce qui signifie en arabe espoir, espoir, et en anglais triste, triste. Parfois je suis Sahad l'espoir, parfois Sahad le triste, même si aux yeux du plus grand nombre, je ne suis rien. Au terme de ce voyage, au début d'un nouveau, j'écris ces pages pour me disculper. Né quelque part où il ne fallait pas, j'ai voulu en partir, réclamant le statut de réfugié. J'ai dégringolé d'identité en identité, migrant, mendiant, illégal, sans papier, sans droit, sans travail. Le seul vocable qui me définit désormais est clandestin. Parasite m'épargnerait, profiteur aussi, escroc encore plus, non. Clandestin. Je n'appartiens à aucune nation, ni au pays que j'ai fui, ni au pays que je désire rejoindre, encore moins au pays que je traverse. Clandestin. Juste clandestin. Bienvenue nulle part, étranger partout. Certains jours, j'ai l'impression de devenir étranger à l'espèce humaine. Je m'appelle Sahad, Sahad, mais ce patronyme, vraisemblablement, je ne le transmettrai pas. Coincé dans les 2 mètres carrés à quoi se réduit mon logement provisoire, j'ai honte de me reproduire et ce faisant de perpétuer une catastrophe. Tant pis pour ma mère et mon père qui ont tant fêté mon arrivée sur Terre, je serai le dernier des Sahad, le dernier des tristes, ou le dernier de ceux qui espéraient, peu importe. Le dernier.
L'instinct, le cœur et la raison.
Si un homme, une femme, un enfant souffre et que personne ne veut les secourir, vous entendrez tout. Toutes les excuses, toutes les justifications, toutes les bonnes raisons de ne pas leur tendre la main. Dès qu'il s'agit de ne pas aider quelqu'un, on entend tout, à commencer par le silence. Mais si cet homme, cette femme ou cet enfant qui souffre ne sont pas seuls à souffrir, s'il y a une guerre à nos portes, s'ils sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être 1 million à nous demander de l'aide, nous ne pouvons pas ne pas en parler, nos silences seraient assourdissants. Alors voilà que nos politiques, nos journaux, nos télés, nos radios cherchent des mots, et voilà qu'ils cherchent des images. Ils doivent parler de victimes de guerre, n'est-ce pas? D'hommes, de femmes, d'enfants qu'on bombarde, qu'on fusille, qu'on torture, qu'on terrorise, qu'on affame, dont on a détruit les villes, dont on a brûlé les maisons, qui ont déjà perdu un père, un frère, des parents, des amis. Ils doivent parler de rescapés qui fuient sur des routes qui ne sont même plus des routes, pour sauver leur vie qui ne sont presque plus des vies. Mais ce sont de ces gens-là que nous devons parler, n'est-ce pas? De ces gens dont nous pourrions faire partie, qui pourraient être
moi,
toi,
vous,
nous. Mais qui sont
eux.
Et comment parlent-ils d'eux,
de...
presque tous nos politiques, presque tous nos journaux, presque toutes nos radios, presque toutes nos télés, et le net lui aussi? Quels mots choisissent-ils? Mais quels mots répètent-ils du matin au soir, jour après jour, sans jamais en changer? Ils parlent d'exode, ils parlent de masse, ils parlent de horde, ils parlent de déferlement, ils parlent de multitude, ils parlent d'invasion. Il répète inlassablement ces mots. Exode, mats, horde, déferlement, multitude, invasion. Il montre inlassablement les mêmes images, des images de foule. Des grappes humaines accrochées à des bateaux qui coulent, des foules parquées dans des camps qui ne peuvent pas les contenir, d'immenses colonnes de victimes jetées sur des routes jusqu'à l'horizon. Et pendant que nos yeux ne voient que ces images, nos oreilles, eux, n'entendent que ces mots.
Exode,
masse,
horde,
déferlement,
multitude,
invasion.
Exode, masse,
horde, déferlement, multitude, invasion. Exode, masse, horde, déferlement, multitude, invasion.
Exode, masse, horde, déferlement, multitude, invasion. Du coup, ce n'est plus l'homme qui souffre que nous voyons sur ces images, ni la femme, ni l'enfant. Ce ne sont même plus des êtres humains. C'est un grouillement, un pullulement, un déferlement, une effrayante menace. Avec ces phrases qui bourdonnent comme des guêpes autour de ces images, nous ne pouvons pas accueillir tout le malheur du monde.
Mais voyons.
Pas la même culture.
Mais...
Pas la même religion.
Mais tout de même.
Pas les mêmes coutumes. Menace pour nos chômeurs. Menace pour nos travailleurs.
Menace
pour notre identité.
Menace.
Et petit à petit, c'est comme si chacun de nous se sentait seul et menacé par cette marée humaine qui n'a plus rien d'humain. Tout à coup, c'est comme si ces gens qui ne sont plus des gens, qui sont eux et pas nous, étaient beaucoup plus nombreux que nous.
Nous.
Comme s'ils étaient la majorité et nous, la minorité menacée. Et nous voilà tentés de nous refermer sur notre peur et notre refus d'aider, sur notre silence.
Stop !
Débranchons-nous, concentrons-nous, écoutons un autre silence, celui dont nous avons besoin pour réfléchir un peu.
Et réfléchissons
un peu. Combien sont-ils en réalité ? L'homme, la femme, l'enfant qui fuit ses guerres et frappe à notre porte. 500 000 ? 1 million ? 2 ? Combien sommes-nous ici en France ? 66 millions. 66 fois plus. 66 Français ne sont pas assez nombreux pour accueillir un ou deux hommes qui souffrent ? Admettons. Combien sommes-nous en Europe ? 508 millions. 508 Européens ne sont pas assez nombreux pour accueillir un ou deux hommes qui souffrent ? Admettons. Ajoutons 318 millions d'Américains, 146 millions de Russes, 36 millions de Canadiens, 23 millions d'Australiens, ajoutons 1 milliard et 26 millions d'Indiens, un autre milliard et 366 millions de Chinois. Ajoutons le reste de l'humanité. Nous voyons bien que ce n'est pas une question de nombre, mais de volonté.
Si nous voulons accueillir l'homme, la femme, l'enfant qui souffre, nous le pouvons. Nous le pouvons. Seulement, dès que nous cessons d'y réfléchir, quelque chose nous en empêche.
Quelque chose en nous ne le veut pas.
Quelque chose ferme notre porte et notre cœur.
C'est quelque chose, c'est notre vieille et terriblement humaine peur de l'autre.
Notre vieille et terriblement humaine peur du changement. Notre vieille et terriblement humain instinct de conservation.
Cet instinct n'est pas mauvais en lui-même. Il a bel et bien conservé notre espèce humaine tout au long de son histoire. Mais c'est un instinct. Il faut le raisonner.
Bien.
Bien. Raisonnons un peu.
Et pour cela, souvenons-vous.
Souvenons-nous. Aujourd'hui, je suis vieux.
C'est incroyable, je suis devenu un vieil homme.
La vie de mon père a passé, puis la mienne à son tour.
Elles ont passé si vite, ces deux vies, que j'en suis tout surpris.
J'ai l'impression que la mienne a duré 10 minutes.
10 minutes qui ont couvert 7 décennies.
Et je me souviens de toutes les fois où, pendant ces 70 années, certaines voix... Certaines images se sont adressées à mon instinct de conservation pour le dissuader d'accueillir l'autre.
Nous en parlions souvent avec mon père. Dans sa jeunesse aussi, les mêmes voix cherchaient à fermer la porte à l'autre.
Qui était-il ?
Mais qui était-il,
cet autre ? Un réfugié, déjà. Des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de réfugiés.
Qui venaient ici ?
Chez nous, en France. Au début du XXe siècle, sont venus des Juifs d'Europe centrale qui fuyaient les persécutions.
Puis dans les années 1915, sont venus des Arméniens qui fuyaient les massacres turcs.
Et puis dans les années 1920, sont venus des Russes qui fuyaient leur révolution.
Puis dans les années 1930, sont venus des Espagnols qui fuyaient le franquisme et la guerre, des Italiens du Sud et des Polonais qui fuyaient la misère.
Et puis dans les années 1950, les ont rejoints des Portugais.
Puis dans les années 1960, les années de la décolonisation sont venues des Algériens, des Tunisiens, des Marocains et des Africains de l'Afrique occidentale.
Et puis au milieu des années 70 sont venus des Chiliens, des Argentins, des Brésiliens, des réfugiés d'Amérique latine qui fuyaient leur dictature.
Puis dans les années 80, après la guerre du Vietnam, sont venus des Vietnamiens, des Cambodgiens et aussi des Chinois qui commerçaient au Vietnam.
Les années 90 sont arrivées des victimes des guerres de l'ex-Yougoslavie.
J'en oublie, bien sûr.
Oh, j'oublie les Grecs martyrisés par leurs colonels.
Les Libanais éparpillés par leurs guerres.
Les Kurdes chassés d'un peu partout.
Les affamés des grands pays désertiques. Tous ces gens, nous les avons accueillis pourtant.
En raisonnant notre instinct de conservation.
En lui expliquant, par exemple, que l'autre peut devenir une aide à son tour.
Peut devenir une aide à son tour.
Un soutien à son tour. Un Français à son tour.
Et ce sont eux.
Tous ces réfugiés du XXe siècle.
Jugés chaque fois trop nombreux, qui font avec nous. La France d'aujourd'hui.
Comme les réfugiés d'aujourd'hui feront avec nous la France de demain.
Dehors le soleil, les dernières flaques de neige. Les vieux pavés gluants des restes de l'hiver ne nous trahiront pas. À l'air libre, on a l'air normal. On est un simple cloporte humain regagnant son trou. On a quand même le droit de marcher sur la terre. Personne ne sait qu'on a le ventre vide, qu'on vient de loin, qu'on ne sait où aller et qu'on s'est fait chasser d'une ville dans laquelle on n'avait pas encore pénétré. Dehors, le soleil donne généreusement une ombre à tout le monde. Il n'y a pas de proscrit.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénil, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. quand l'Afrique se transforme en cadavre. Les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Kaoku katoyi, kaoku kaniniya. Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Je vis depuis des années dans un pays en paix, où chaque ville possède tant de bibliothèques que plus personne ne les remarque. Un pays comme une impasse, où les bruits de la guerre et la fureur du monde nous parviennent de loin. La nuit, me revient le parfum de mes rues d'enfance, le rythme calme des après-midi, le bruit rassurant de la pluie qui tambourine le toit de tôle. Il m'arrive de rêver. Je retrouve le chemin de ma grande maison, au bord de la route de Roumonguet. Elle n'a pas bougé. Les murs, les meubles, les pots de fleurs, tout est là. Et dans ces rêves que je fais la nuit d'un pays disparu, j'entends le chant des paons dans le jardin, l'appel du muezzin dans le lointain. L'hiver, j'observe avec tristesse le marronnier effeuillé dans le square en bas de mon immeuble. J'imagine à sa place la puissante voûte des manguiers qui rafraîchissait mon quartier. Lors de mes insomnies, j'ouvre un petit coffre en bois caché sous le lit. Des fragrances de souvenirs me submergent en regardant les photos de tonton Alphonse et de Pacifique. Ce cliché de moi dans un arbre, pris par papa un jour de l'an. Ce scarabée blanc et noir, ramassé dans la forêt de la Kibira. Les lettres parfumées de l'or. Les bulletins de vote de l'élection de 1993, ramassés dans l'herbe avec Anna. Une carte d'identité tachée de sang. J'enroule une tresse de maman autour de mes doigts et je relis le poème de Jacques Roumain, offert par Madame Economopoulos le jour de mon départ. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né, comme qui dirait natif natal, eh bien, on l'a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. Je tangue entre deux rives. Mon âme a cette maladie-là. Des milliers de kilomètres me séparent de ma vie d'autrefois. Ce n'est pas la distance terrestre qui rend le voyage long, mais le temps qui s'est écoulé. J'étais d'un lieu, entouré de famille, d'amis, de connaissances et de chaleur. J'ai retrouvé l'endroit, mais il est vide de ceux qui le peuplaient, qui lui donnaient vie, corps et chair. Mes souvenirs se superposent inutilement à ceux que j'ai devant les yeux. Je pensais être exilé de mon pays. En revenant sur les traces de mon passé, j'ai compris que je l'étais de mon enfance. Ce qui me paraît bien plus cruel encore.
Ma prière. Voilà commence ma prière. J'aime que le matin blanc pèse à la vitre et l'on tue ici. J'aime qu'un enfant courant dans l'herbe haute vienne à cogner sa joue à mes paumes et l'on tue ici.
J'aime qu'un homme se plaise à mes seins et que sa poitrine soit un bateau qui porte dans la nuit et l'on tue ici. J'aime qu'on bavarde à la porte du boulanger quand il n'y a d'autre souci que le bleu du ciel étendu sous la théorie des nuages et l'on tue ici. J'aime qu'à quelques-uns, on s'ennuie paisiblement à observer le vent dormir sur les toits de la ville et l'on tue ici. J'aime qu'on bâtisse une fleur pour la fleur dans le loisir insipide du jardin et l'on tue ici. J'aime que la pierre roule dans la rivière et que cela fasse un bruit de clarinette et l'on tue ici. J'aime que les heures ne soient que le temps qui passe pour faire les heures. Et l'on tue encore ici, encore. Et voilà comment continue ma prière. Êtes-vous là, encore? Êtes-vous là, mangeur d'ombre? Je crache sur l'homme de guerre. Je crache sur le guerrier de la prochaine guerre. Qui joue aujourd'hui avec son ours en peluche, les ailes des mouches et la poudre rouge et bleue des papillons. Je crache sur l'esprit de guerre qui pense et prévoit la douleur. Je crache sur celui qui pétrit la pâte de la guerre et embrasse son sommeil quand on cuit la mort au four de la guerre. Je crache sur le ruisseau de sang qui tombe des doigts du vainqueur comme un mouchoir par mégarde tombe au caniveau. Je crache sur celui qui fait d'un corps de femme une chair ouverte, une chair bleue qui était blanche, couverte de guêpes, qui était faite pour le baiser, déchirée, qui était comme une soie pour le soleil. Je crache sur la haine et la nécessité de cracher sur la haine. Homme de guerre, je te regarde. Regarde-moi, je te dis, regarde-moi. Mais je croyais à ce qu'il faut croire, parce qu'il y avait les trois oliviers, la douceur sur la peau des collines, et l'étranger qui demandait mes lèvres. Je croyais à la rumeur des jours, à la lenteur des nuits, au tendre divorce des heures, à la nostalgie gentiment amère des soirs. Je croyais à l'ombre rousse dans le chemin, au silence dans le rire, à la force bruissante des légendes, au chaud, au froid, à la faim, à la soif, au vent, au chagrin, à la branche, à l'ennui, au parfum, à l'orage, à ce qui paraît et disparaît. Bref, toutes ces petites choses humaines, qui sont humaines et inutiles, bien sûr, et qui ne demandent à l'homme que d'être à son métier de vivre, sans hausser le ton et sans hausser la garde.
Terre indocile. Pays natal et terre d'exil, terre foulée par des fanfares de conques, terre pour des champs d'amandiers, des centaires habitent le revers du vent l'hiver. Terre de tohu-bohu, de mille catastrophes, terre avec des humains à bord pour écrire le nom des bateaux sur des coques prêtes pour l'aventure. Pays natal et terre d'exil, terre offrant des parfums aux exodes, aux pas incertains des hommes, terre montée accrue que survolent des songes nus, roche brune pour épouser des soleils, cacher des solitudes, garder des confidences dans un amas de feuilles mortes à l'automne. Pays natal et terre d'exil, terre indocile pour des spirales et des trésors de langues, chacune à leur mesure d'épices. Terre à pigments pour tatouer sur des nattes la vie des femmes d'ici, en couleurs de cuivre, d'armadas de roues, de teintes pâles sanglées de rouge, langues qui charrient la dernière salive de landes sèches, de fleurs orifères, leur sac de fruits rares.
En arrivant à la frontière française, qui est fermée et gardée par des gendarmes et des gardes mobiles, une longue et désespérante nuit d'attente commence pour Ada et moi, et pour toutes les personnes qui se sont massées devant les barrières. Les ouvriront-ils? Ou ne les ouvriront-ils pas? C'est l'angoisse. C'est la fatigue accumulée des nuits sans sommeil, des jours sans nourriture.
C'est le cauchemar de la peur. Nous sommes à bout de force. Il se met à pleuvoir. Il va pleuvoir toute la nuit. Une pluie entremêlée de flocons de neige. Il fait très froid. Nos couvertures nous protègent bien un peu au début, mais elles sont vite mouillées. Tout à coup, les gardes mobiles s'écartent, les barrières s'ouvrent. Ce n'est pas pour nous. Ils font passer vers la zone républicaine un petit avion de chasse monté sur un camion. Il tombera sans doute bientôt entre les mains des franquistes. Les barrières se referment. Nous sommes beaucoup de femmes à attendre, jeunes pour la plupart, et il n'y a pas encore beaucoup d'enfants. Ada fait une crise d'asthme. Elle souffre terriblement. Je suis au désespoir et je ne sais que faire pour la soulager. On dirait qu'elle a un cri-cri dans la poitrine. Pauvre Ada. Le gouvernement français discute le bien fondé de nous ouvrir ou de ne pas nous ouvrir la frontière. Nom de Dieu ! Qu'il fasse vite ou qu'il nous jette aux orties une fois pour toutes. Il fait de plus en plus froid et nous sommes trempés comme des éponges. Les gardes mobiles et les gendarmes nous regardent, impassibles. Je me demande s'ils ont une âme, une conscience. S'ils en ont une, elle doit être bien élastique. Ce ne sont pas d'épaisses capotes qu'ils ont sur eux, ce sont des cuirasses d'acier. J'ai toujours cru que dans les moments de grande tragédie, la Croix-Rouge était présente sur les lieux. Ici, elle brille par son absence. Notre cas n'intéresse personne, pas même la Croix-Rouge. Il fait déjà jour lorsqu'il se décide enfin à nous ouvrir les portes de la France. On nous empile dans des véhicules et on nous conduit au boulot. Au début de l'après-midi, on nous dit que des femmes, des ménagères du boulot, ont organisé une cantine pour les réfugiés espagnols. Quand nous arrivons, il ne reste plus rien. L'une des Françaises, désespérée, se met à hurler « Du fricot ! Du fricot !» C'est le premier mot français que j'apprends. On déniche quelques patates cuites à l'eau et on nous les donne avec un gros morceau de pain. C'est notre premier repas depuis des jours. Les mâchoires me font mal et j'ai de la peine à mastiquer. Ada va mieux, elle mange. Nous nous regardons et pour la première fois depuis longtemps, nous sourions. On nous trouve une étable pour la nuit. C'est une étable qui a été vidée de ses occupants et sur le plancher de laquelle on a mis de la paille fraîche. C'est presque confortable. On s'y sent à l'abri. Quelques femmes s'y trouvent déjà. Avant que l'on s'endorme, une Française apparaît à la porte avec un bidon rempli de lait, avec un bol. Elle nous en distribue. La brave femme, elle va un peu partout dans les étables où elle sait qu'il y a des réfugiés. La paille nous paraît chaude, douce et moelleuse, comme des nuages de coton. On s'endort tout de suite. Lorsqu'on se réveille, on voit briller le soleil par les fentes de la porte. Je suis dans un état de demi-léthargie. Combien de jours resterons-nous là ? Difficile à dire. Je n'en sais rien. Je sais seulement que nous avons dormi, dormi, dormi.
Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau. Et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai. Les
Barcelone se sont coupés des menuisiers et sans patron tout refonctionne. On sourit dans les ateliers sur la place de la mairie qu'on a changé en maternelle. Des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main.
Un info sur l'actualité.
Depuis plusieurs mois, des dizaines de migrants, migrantes, des hommes pour la plupart, et parmi lesquels de nombreux mineurs, venus majoritairement d'Afrique centrale et de l'Ouest, arrivent chaque jour à Briançon, après une traversée des Alpes de plusieurs jours depuis l'Italie. Ils sont contraints d'emprunter des cols à plus de 2000 mètres d'altitude du fait du renforcement de la pression policière et militaire au point de passage situé plus au sud, notamment Vintimille, sur la côte Azur, et la vallée de la Roya, sur les contreforts des Alpes-Maritimes.
L'État français, en vertu de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dont il est signataire, est tenu d'assurer protection et aide à tout mineur isolé, et ce, sans distinction de nationalité ou d'origine. À ce titre, les mineurs arrivés dans les Hautes-Alpes s'enregistrent au service de l'aide sociale à l'enfance, ASE, au Conseil général de Gap. Alors que les demandes de prise en charge sont habituellement traitées dans les 5 jours, de nombreux jeunes attendent depuis déjà 2 mois.
En attendant, l'hébergement est sous-traité à des hôtels qui logent dans des conditions sanitaires et de confort précaires, recevant de l'État 30 euros par jour et par personne. Les jeunes reçoivent une aumône sous la forme de tickets service qui oscille entre 6 et 12 euros par jour quand elle leur est versée et à condition de pointer un gap à des intervalles irréguliers imposés par le Conseil général. C'est à ce moment qu'ils sont informés de l'avancée, ou le plus souvent de la non-avancée, de leur dossier.
Le traitement des dossiers est une illustration parmi tant d'autres, malheureusement, du cynisme, de la brutalité et de l'arbitraire de l'administration à l'égard des exilés. Ces mineurs ont traversé la Méditerranée dans des conditions épouvantables. La Libye, où ils, elles, ont subi l'emprisonnement, le travail forcé, les viols et l'esclavage sexuel pour de nombreuses femmes, les rançons et les meurtres, le désert du Sahel, et ce, après avoir quitté des pays souvent ravagés. À leur arrivée en France, ils, elles, sont traités comme des suspects, soumis à des interrogatoires, leur dentition et leur pilosité sont auscultées. Ils, elles, subissent des tests osseux, et la cohérence de leurs récits ainsi que leur degré de maturité sont étudiés. Ces enquêtes aboutissent à de nombreuses déminorisations qui ferment les portes de la prise en charge par l'ASE.
En parallèle, la répression de l'État se fait sans cesse plus forte. Course-poursuite par la police en montagne qui aboutit à la chute de 2 personnes dans un ravin de 40 mètres. Rafle et contrôle aux faciès dans les rues de Briançon. Patrouille et contrôle dans la gare de Briançon, puis dans les trains qui en partent avec la collaboration de la SNCF. Reconduite de force immédiate et illégale en Italie. Face à ces situations, des solidarités et des résistances s'organisent, venant de différents groupes et ou personnes.
Balisage et dépôt d'eau et de couverture sur des sentiers de montagne frontaliers.
Réquisition de logements vides à Gap depuis un an et à Briançon le mois dernier et hébergement par des particuliers.
Accompagnement juridique et administratif, soutien au quotidien.
Convoyage vers des lieux plus sûrs.
Distribution de petits déjeuners et cantines les jours de pointage au Conseil général et collecte de produits de nécessité.
accompagnement dans les transports.
Cours de français.
Occupation du Conseil Général début août pour exiger une prise en charge et une mise à l'abri réelle.
Récemment, un chalet de 80 places a été ouvert par la préfecture au fin fond d'une vallée du Champsaur en réaction aux demandes insistantes faites à l'État pour qu'il assume son devoir de prise en charge des mineurs. Cependant, les personnes cherchant refuge sont loin de toutes se voir proposer un accompagnement et une mise à l'abri. Des collectes sont organisées, ainsi qu'une cantine les jours de pointage à Gap.
Pour se rencontrer, il est possible de se retrouver pour cuisiner dans l'après-midi, la veille de pointage au Pigeonnier, à Lucan d'Ivoix, dans la rue principale entre la poste et le garage.
Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin, où tu fais ta valise. Tu vois qu'on te balise et tes parents te verbalisent. Tous ceux qui t'aiment te disent qu'ils te regretteront amèrement. Tu n'y croiras pas mais tu ne diras pas que ta mère te ment. Quand sur ton épaule couleront ses larmes sincèrement, c'est fièrement que tu lèveras la tête droite devant toi. Tu marcheras et elle verra tes pas comme des adieux. Au seuil de ta porte tu croiseras le regard de ton père soucieux, rouge de haine se disant qu'il est la cause de cette peine. Tu t'en iras avec la vasive en main presque vite, le cœur malade mais l'esprit avide que Cupid. Tu t'en iras avec l'espoir de revenir un jour quand tu ne sais pas, mais tu t'en vas car c'est ton jour. Pour qui tu feras ça, tu répondras maman et papa. Sur les sentiers tu entendras les derniers chants des oiseaux, le doux parfum de cette forêt à laquelle tu tourneras le dos. Tu t'en iras, prendras place dans ces decks de fer qui t'emmènera loin de ta patrie sur nos terres, loin de nous qui t'aimons et près d'une passion étrangère. Saï, c'est doux.
Saï,
saï, saï. Il fera froid là-bas, mais il n'y aura plus personne. Personne parce que là-bas c'est chacun pour soi et Dieu qui donne. Rarement cette joie d'être et d'appartenir à ta race. Il n'y aura plus de place, c'est l'unité que tu as connue chez toi. Tu oublieras tes parents et tu penseras qu'à tes études. Avec cette attitude, tu pourras rappeler ta solitude. Illusion, c'est chaque visage tu verras comme une inscription te rappelant que t'es qu'un gibier parmi les lions. Tu rédigeras des lettres que le facteur n'aura jamais. Tu ramèneras de belles photos et tu diras que tout est parfait. Tu resteras 5-6 ans jusqu'à ce qu'un jour un message t'annonce le mariage de ta sœur cadette. Tu te tiendras la tête entre les deux mains en pensant au clair de lune, aux enfants et au tombeau parlant. Mais qui sera là pour te conter l'événement? Au fond de ton âme, tu seras marqué profondément. Tu connaîtras l'amour, pas celui de Fatmata, mais celui des dîners, des fleurs, bref de Natalia. Tu voudras plus venir quand ta mère malade va souffrir. Tu vas plus répondre quand le village va t'écrire. Tu diras que tu t'en fous quand ton père va te maudire. Ainsi c'est comme ça que le facteur te donnera une lettre. Et c'est comme ça que tu te jetteras parce qu'on t'embête. Mais si tu savais que ta mère a perdu la vie.
Saï,
saï,
saï, saï,
Mama,
Mama, don't come back, baby, Mama. mama, tutto nang tu mga ibiyama.
C'était Variation sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Voici par ordre chronologique les textes que vous avez entendus dans cette émission.
Rémi Boiron.
Ulysse from Bagdad de Eric Emmanuel Schmitt.
C'est nous, lui à deux voix de Daniel Pénac.
Un texte extrait du noir, le noir de Le Noir est une couleur de Griselidis Réal.
La chanson de Gaël Faye, Petit Pays, et derrière une interprétation d'un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle aussi Petit Pays.
Stabat Mater Furiosa, une magnifique pièce de théâtre de Jean-Pierre Siméon.
Denis Péan, un poème qui s'appelait Terre Indocile.
Tiré du recueil Musée, La Parole. Un texte d'Anna Delso, Estampe d'une révolution. Suivi de l'actualité qui nous a tiré du bulletin d'information de ce qui se passe dans les Hautes-Alpes en ce moment, notamment à Gap.
Derrière la musique Chemin de l'exil du groupe Yélène.
Et pour introduire la prochaine émission Variation qui sera sur le thème des femmes, voici un texte de Lola Lafont tiré d'un livre qui s'appelle Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. Rendez-vous dimanche pour la rediffusion. Et mardi prochain pour la prochaine émission techniquement parfaite de Variation.
Salut.
Rendez-vous tous les troisièmes mardis du mois à 11h. Rediffusion le dimanche suivant.
Salut.
Vomir ce qui me traverse comme proposition d'existence. Rubrique amour, rubrique travail, rubrique loisir. Quand je les remets en cause, on m'enjoint de consulter. On me met sous notice. On me parle constamment de la vie. Je ne reconnais rien qui me tienne au corps dans leur définition de la vie. J'en conclus que je ne vis pas dans la vie. Je ne vis pas dans la vie. Je commence à comprendre que je suis exilée de mon sexe. Exilée volontaire, en lutte armée, en résistance contre celle que j'aurais dû être. La vraie vie que j'aurais dû mener, celle des ongles ronds et clairs, des cuisines équipées, des sexes moites juste ce qu'il faut, des cuillères en bois qui sèchent soigneusement dans le bac à vaisselle, des cheveux lissés de silicone, des rires habiles et des regards charmants, des débuts de semaine overbookés. Ah, quel stress, j'arrête pas de courir. Du souci de l'haleine et du fond de culotte, comment garder vos dessous bien blancs. Des cordes vocales domptées à reculons depuis l'adolescence, repris un par un, les éclats de voix et les sautes de volume. Ah mais quelle vulgarité! On dirait un bulldozer, tu es si brutal, me dit-on. Exilé de ce désir empalé en nous d'être acheté, qui va si bien avec ce vexé de ne pas être acheté. Il ne m'a pas rappelé. Je ne veux pas me joindre au troupeau, je ne veux pas me perdre, je ne veux pas m'oublier. Je ne veux pas être leur carpette. Je m'aime jeune fille, je veux être une tombe surplombant la mer, une vierge d'ébène en moi veille, je veux être honnête avec elle, écrit Violette, elle. Comme j'ai peur de me faire reprendre et qu'on le saisisse, ce désir de fausser compagnie à mon destin biologique.
Variation.
Variation.
Mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche. Du politique qu'on éclabousse.
Du politique qu'on éclabousse. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.
C'était Variation.
La plus belle de toutes les émissions.
Une émission de caractère.
D'origine appellation contrôlée. Salut. 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 Salut.